encore une fois, c'est du bon boulot, monsieur Ebino.
Ben oui, impeccable.
Impeccable. Beaucoup de références à la BO de Rambo 2 de Jerry Goldsmith dans cette musique d'ailleurs, si on écoute bien avec la section cuivre. Monsieur Ibino, en saxophoniste, adore la section cuivre, pour mon plus grand plaisir personnellement, parce qu'il fait toujours des petites nappes de cuivre en fond dans toutes ses compositions, c'est vraiment agréable. Et là, il s'amuse aussi avec les flûtes, parce que c'est la jungle, hein, donc il faut les ambiances flûtes de jungle, ouais. Et également les guitares électriques très années 60. Il s'amuse un peu avec tout un spectre musical varié, et c'est juste génial. Mais là, on se dit, mais attends, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Ebino, mais il fait quoi, Harry Gregson-Williams, dans l'histoire, finalement? Parce que c'est lui le compositeur, quand même. Ben, il compose surtout des pistes d'ambiance, en fait, dans le jeu, et quelques pistes d'action, notamment les scènes de course-poursuite, et aussi des séquences d'émotion vers la fin du jeu, parce qu'il y a beaucoup de séquences d'émotion dans Metal Gear. Et il fait la reprise du thème de Metal Gear de Tapi Iwase, encore une fois, mais pour moi, c'est vraiment Monsieur Ibino qui donne du corps au jeu. C'est pour ça que j'ai sélectionné surtout des morceaux de lui, parce que... Ah, je sais pas, je trouve que c'est lui qui a créé l'ambiance de Metal Gear 3.
Non, c'est vrai qu'ils sont très réussis, ces morceaux, ouais.
Il y a Madame Rika Muranaka, pardon, qui est toujours là également, et elle compose un morceau appelé Don't Be Afraid, qu'on peut entendre pendant le générique de fin, parce que c'est la traduction. La tradition, pas la traduction, ça ne veut rien dire. Mais Snake Eater innove, dans le sens où pour la première fois, la chanson qui conclut le jeu, elle n'est pas composée par l'équipe de chez Konami, mais c'est un morceau sous licence. Et la raison du choix du morceau, elle est lunaire. Quand j'ai appris ça, j'étais mort de rire. Donc je vais vous partager cette anecdote. En fait, c'est un des collègues de Hideo Kojima qui lui conseille d'écouter le groupe Stellar Star, car il pense qu'il y a des morceaux qui colleraient bien pour la fin du jeu. Alors Kojima, il fait OK, il va chez lui, et en fait, il se trompe parce qu'il a cru entendre le mot Star Sailor, et non pas Stellar Star, qui est un autre groupe, Star Sailor. Donc, suivant le conseil mal compris, il écoute Star Sailor, et en fait, il aime vachement un morceau qui s'appelle Way to Fall. Et donc, il décide de choisir Way to Fall comme thème de fin. J'imagine la tête de son collègue quand il lui a dit « Ah, oh, merci, j'ai écouté Star Sailor et j'ai pris Way to Fall comme morceau de fin. » Son collègue a dû dire « Quoi ? De quoi tu parles ?» Voilà, ça me fait beaucoup rire. Snake Eater, c'est considéré par beaucoup de fans comme le meilleur épisode de la série. Je ne sais pas si c'est ton cas, Nico.
Moi, j'ai une petite préférence pour le... Enfin, une grosse préférence pour le 2. Pour plein de raisons, parce que je trouve que je pourrais en parler pendant des heures, hein, je me suis retenu, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je trouve que le 2 a été avant-gardiste sur énormément de points, sur tous les points quasiment. Mais ouais, je les aime tous. Donc le 3, oui, j'aime beaucoup, mais à chaque fois que je rejoue au 2, je me dis putain, mais c'était vraiment une claque, quoi.
C'était quelque chose, ouais. Mais... J'ai racheté je sais même plus le nom, la Master Collection, enfin la collection ultime là, qu'ils ont ressorti. J'ai refait le 1 et j'ai
commencé. Legacy machin.
Ouais, je sais plus le nom. J'ai refait le 1 et j'ai repris le début du 2 et ouais, c'est quelque chose.
Ouais.
Bon, mine de rien, l'ambiance dans la jungle, l'histoire complexe de MGS3, les personnages mémorables, il y a quand même beaucoup de personnages mémorables, et le final poignant avec The Boss, ils ont permis à rendre le jeu complètement culte. Et bon, Konami l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils vont nous proposer un remake de MGS3 qui s'appelle Metal Gear Solid Delta et qui va sortir je sais pas quand, mais dans pas trop longtemps. Mais malgré tout, les gens, ils étaient un tout petit peu déçus de pas avoir la suite de l'histoire de MGS2. Hideo Kojima, lui, il était pas motivé pour faire la suite. Encore une fois.
Il peut
jamais faire de suite, mais il les fait toujours. Mais devant l'insistance de Konami, et du public surtout, il sera en évidence qu'il faut faire un MGS4 pour conclure l'histoire entamée avec MGS2. Il a pas le choix. Donc là, il décide de passer au rôle de producteur. Et il nomme quelqu'un, Shuyo Murata, au poste de réalisateur. C'est pas n'importe qui, Shuyo Murata, c'est un vétéran de la franchise déjà. Et il était co-scénariste de Snake Eater et réalisateur de Zone of the Enders 2, donc c'est pas un débutant non plus. Mais là, les fans, et je mets des guillemets entre le mot fan, ils se sentent trahis par cette décision, et ils commencent à envoyer des menaces de mort à Kojima.
Ah, comme savent si bien le faire les fans de jeux vidéo, c'est incroyable.
Exactement, exactement. Mais Kojima, lui, ça le touche beaucoup, et il sent la pression monter. Donc là, pendant la présentation du jeu à l'E3, il explique qu'il garde le contrôle créatif total sur le jeu et il explique qu'il est co-réalisateur du jeu. Et surtout, il explique que MGS4, ce sera la conclusion finale de la saga. Parce que je pense que ça l'a pas mal chamboulé, cette histoire. Mmh. Mais au-delà d'être la fin de la saga, MGS4, il annonce surtout la fin de l'utilisation du thème principal de la série.
Oh, bah il est si bien pourtant.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais on va se remettre un peu dans le contexte. Donc, aux alentours de 2005 à peu près, lors d'une interview, il y a un journaliste russe qui propose à Kojima d'écouter un petit morceau qu'il a sur sa PSP. Il a ramené sa PSP, il lui dit « Est-ce que je peux vous faire écouter un morceau qui s'appelle Winter Road du compositeur Gorgui Zviridov ?» Bon, Kojima, il dit « Ouais, carrément. » Donc, il commence à mettre le morceau sur le speaker et on va s'écouter ce que Kojima découvre. Kojima, quand il entend ça, il dit, dans sa tête, il se dit « on a un petit problème là ». Parce qu'au début, il entend le morceau, tu sais, il rigole. Forcément, il se dit « oh, excellent, ça ressemble beaucoup à Metal Gear quand même ». Et puis le morceau avance et il se dit « la vache, ça ressemble beaucoup à Metal Gear quand même
». Ça me rappelle quelque chose.
Ouais, il pose des petites questions à son collaborateur. Il dit « il est connu, monsieur Zviridov, en Russie ?» Et le journaliste lui dit « ah bah ouais, c'est un mec hyper connu ». Enfin, et là, il commence à transpirer et à se dire « Ok, là, on a un petit problème. » Je pense que Kojima, dans sa tête, surtout, il se dit « tapis oisé, enfoiré ». Enfin, il se dit « qu'est-ce que là, tu m'as bien eu ?» Parce que je t'ai payé hein, quand même pour cette musique. Donc, forcément, on a un petit problème. Et là, j'aimerais faire une petite aparté sur le plagiat. Parce que le plagiat dans la musique, ça a toujours existé. Mais on va dire, il y a le bon plagieur et le mauvais plagieur. Je vais m'expliquer juste après.
À quel moment c'est un hommage et à quel moment c'est du plagiat.
Voilà, exactement. Parce que la musique, c'est compliqué. Il faut savoir déjà, quand on écrit de la musique, il n'y a rien de pire qu'être devant une page blanche. Hein, et devoir écrire quelque chose, c'est très compliqué. Donc souvent, on se met à, on appelle ça jammer sur son clavier, à improviser des trucs. Et un moment, quand on improvise, il y a une petite ligne mélodique qui sort et on se dit « Ah, c'est sympa ça, bah, tiens, je vais le garder et je vais l'utiliser ». C'est fort possible qu'on sorte une mélodie qu'on a déjà entendue sans s'en rendre compte. Vraiment, hein, c'est possible qu'on l'a entendue il y a longtemps, on s'en rappelle plus et on le garde parce que notre cerveau, il dit « Hey, ça sonne bien, j'aime bien ». Et en fait, ça existait. Ça, c'est fort possible. Mais des fois, l'inspiration, elle est un peu grosse. Et des fois, je pense aussi que c'est pour pallier à des timings de production. Ou des fois, les compositeurs se disent bah, « Je vais le faire, je vais pas me faire gauler ». Et la plupart du temps, ils se font pas gauler. Sauf que là, Monsieur Iwase s'est fait gauler. Mais j'aimerais te faire écouter deux, trois exemples, en fait, pour montrer que le plagiat, ça existe même chez les plus grands et qu'on le sait pas forcément. Donc là, je vais te faire écouter un morceau qui s'appelle « Let's Not Talk About It ». C'est un morceau, bon, le titre est bien choisi, du groupe Friendship. Je te fais écouter ce petit passage et après tu me dis si ça te fait penser à quelque chose.
Vas-y.
Est-ce que par hasard, ça te ferait pas penser à quelque chose, cette petite ligne ?
Mais oui, c'est le truc avec le plombier, là. Mais oui, il y a les tortues.
Mais oui,
je connais.
Écoutez-moi ça. Regarde, on s'écoute la réponse.
Je
c'est exactement la même chose.
Mais ouais, c'est dingue.
Et ça fait du sens, en fait, parce que Koji Kondo, quand il a commencé la musique, en fait, il était claviériste dans un groupe dans son lycée où il faisait énormément de reprises de rock, de jazz rock, de funk des années 70 avec ce groupe-là. Et en fait, il en a joué des milliers de morceaux comme ça. Mmh. Alors, là, c'est un peu dur de dire que c'est une inspiration inconsciente. Là, je pense que c'est très, très, très conscient de sa part, mais bon.
Ah bah, c'est exactement les mêmes notes sur le même tempo, c'est difficile, ouais.
Mais il ne s'inspire pas que de ça. Bon, là, on va avoir l'impression que je tabasse Koji Kondo, mais bon, c'est juste qu'il a écrit tellement de choses, c'est bien de voir les inspirations qu'il a, des fois.
Oui, parce que c'est un monument, le gars, quand même.
Carrément. Donc là, je vais te faire écouter, au contraire, un morceau japonais qui est sorti en 1987, un morceau de pop japonais qui s'appelle Morning Glory. Mm-hmm. Alors, c'est un peu plus dur à repérer, mais on va voir si ça te fait penser à quelque chose. Mm-hmm. Alors, j'avoue que celui-là, il est un peu plus dur. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose ou pas.
Non, là, c'est un peu plus subtil. J'avoue que là, comme ça, je l'ai pas forcément.
Eh ben, tu vas être surpris d'apprendre que les accords sont... Et la suite d'accords est exactement la même que le début de Zelda.
Ok, ouais, d'accord.
Tous les accords sont les mêmes. Alors, bon, je vais laisser Koji Kondo tranquille 5 minutes. Je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre, Nobu Uematsu.
Ah ouais, tu t'attaques vraiment au pilier du genre, quoi.
J'ai peur de rien. Censurez-moi, j'ai peur de rien. Donc là, on va s'écouter un morceau, enfin, l'intro d'un morceau de musique électronique allemande des années 70. Pareil, tu me diras si ça te rappelle un petit truc ou pas du tout.
Vas-y.
Alors, dis-moi.
Oui, si, ces petites notes-là, je les reconnais. Je ne sais plus dans quel jeu j'ai entendu ça, parce qu'il y a trop de JRPG dans lesquels il a mis ses musiques, mais si, je connais ces notes-là, ouais.
Eh bien, c'est Final Fantasy VII, figure-toi.
Le 7, ouais, d'accord.
On va s'écouter ce petit truc. Alors, il a changé la tonalité. Là, pour le coup, c'est peut-être inconscient, très honnêtement, parce que bon, voilà, c'est peut-être inconscient, c'est possible. Il faut savoir que tous les grands artistes, ils se sont fait attaquer pour plagiat à un moment ou à un autre. John Williams, il s'est fait attaquer parce qu'il avait un thème, le thème de Star Wars d'ailleurs, qui ressemblait beaucoup à un thème d'un autre film en noir et blanc. Mais c'est compliqué parce que bon, voilà, des fois, il y a quelques notes qui ressemblent. John Williams cite également les grands maîtres intentionnellement, parce que ça lui fait plaisir, c'est son délire. Il a une culture musicale énorme, donc régulièrement, il cite les grands maîtres. Bon, on ne peut pas vraiment l'attaquer pour plagiat pour ça.
Mais il y a aussi des exemples de... Par exemple, Yoko Shimomura, qui est devenue une star depuis, mais qui, à l'époque, commençait plus ou moins quand elle faisait les musiques de Street Fighter 2. Il y a plusieurs thèmes de Street Fighter 2 qui sont repris de morceaux de pop-rock des années 80, par exemple.
Ouais. Ouais, carrément, ou même Street of Rage 2, ah ça m'a fait mal, mais même lui y est passé. Mais faut savoir que l'inverse existe aussi. Par exemple, il y a un jeu sur NES qui s'appelait Top Gear.
Oh wow. Mais elles étaient excellentes, les musiques de Top Gear en plus.
Elles étaient mortelles. Là, je vais te passer l'intro, juste pour te la remettre en mémoire. voilà, intro mortel. Mm. Et ben, il y a un petit artiste anglais qui jouait beaucoup à Top Gear. Et ben, figure-toi que, et il l'a avoué en interview, hein, là, vraiment, pour le coup, il l'a avoué. Ça lui a donné l'idée pour la ligne mélodique principale d'un morceau qui s'appelle Bliss. Et je parle bien de Matthew Bellamy, le compositeur du groupe Muse, compositeur-chanteur du groupe Muse.
Oh.
Et on va s'écouter Bliss. Et écoute bien cette ligne d'intro. Voilà, donc...
Putain, je savais pas.
C'est fou, hein. Il a écrit son plus gros succès parce qu'il avait beaucoup joué à Top Gear. Je trouve ça génial.
Mais oui.
Donc voilà. Donc voilà, le plagiat dans la musique, c'est compliqué. Encore une fois, il y a des bons plagieurs et des mauvais plagieurs. Le truc, là, on parle de Monsieur Uematsu, on parle de Koji Kondo, on parle de Matthew Bellamy, on parle de John Williams. C'est des gens, ils ont écrit tellement de choses dans leur vie.
Mmh.
Ils n'ont pas besoin de copier qui que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est des machines à mélodie, ces gens. Donc, oui, ils s'inspirent des fois, certes, mais ils n'ont pas besoin de ça pour faire de la musique. C'est mm-hmm. ça que je veux dire. Les gens, c'est vraiment des machines à mélodie. Dans le cas de Tapie Iwase et de Metal Gear Solid, Tapie Iwase, c'est pas une machine à mélodie. Pas du tout. Vraiment, lui, c'est un batteur à la base. Donc, c'est vraiment un percussionniste, un batteur. Il a écrit pour beaucoup de jeux, mais il a surtout écrit des morceaux d'ambiance, des percussions et pas vraiment des mélodies. Les mélodies, ça n'a jamais été lui qui les a fait. D'ailleurs, depuis Metal Gear Solid, il n'a pas écrit une seule mélodie mémorable. Donc là, dans ce cas-là, c'est un peu plus grave, je trouve personnellement. Parce que là, vraiment, tu te dis, ouais, bon, là, il a carrément volé la musique en espérant ne pas se faire gauler parce que c'était un compositeur russe pas très connu au Japon. Et c'est pour ça que ça a mis le feu aux poudres, et c'est pour ça que Konami s'est dit non, là on est dans la merde, parce que si la famille du compositeur russe qui était décédé déjà dans les années 90 nous attaque, on est mort, on peut pas répondre à ça. Donc ils ont décidé de supprimer le thème de la série Metal Gear.
D'accord.
Ad vitam aeternam.
Ce qui est intéressant, par contre, je ne sais pas s'ils ont trouvé un arrangement depuis, c'est qu'ils ont pas, ils ont ressorti depuis les Metal Gear Solid 1, 2, 3, ils n'ont pas retiré ces musiques des jeux. Et les thèmes sont restés. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un accord qui a été trouvé ou si juste ils ne se sont pas fait attaquer. Donc, ils ont dit, on verra si ça passe ou pas. Mais ils ont quand même gardé les musiques.
Peut-être qu'ils serrent les fesses depuis, je ne sais pas. Mais effectivement, les thèmes existent toujours. Peut-être que l'accord, justement, comme tu dis, c'est OK, on l'utilisera plus jamais.
Ouais.
Et puis voilà.
Si ça se trouve, c'est John Carpenter qui est allé voir la famille pour dire Kojima, c'est un mec sympa. Les attaquez pas en justice. Kojima, c'est un mec cool, je l'aime bien.
Good guy Carpenter qui vient pour sauver. To save the day. Donc voilà, donc Metal Gear Solid 4 n'aura pas le thème principal de la série iconique. Et Metal Gear Solid 4, pardon, d'ailleurs, une ambiance qui change drastiquement des autres Metal Gear, enfin, surtout au début de jeu. Parce que Hideo Kojima, il avait le désir, lui, d'implémenter un nouveau style de gameplay. Il voulait que le jeu se déroule dans une zone de guérilla urbaine à grande échelle, une zone de guerre à grande échelle. Donc, il voulait que le jeu soit beaucoup plus action. Et le jeu se passant dans un futur proche, le but, c'était de montrer les dérives de la guerre et de la course-poursuite à l'armement qui pousse à créer des jouets de destruction de plus en plus sophistiqués et de moins en moins éthiques. Et donc, MGS4 est vraiment imprégné de cette idée-là. La tradition qui fait que M. Kojima est inspiré par les films qu'il regarde en pré-production, ben, ça se poursuit avec MGS4 qui se voit très, très, très fortement inspiré par la chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Ça a défini le décor du Moyen-Orient, pardon, et même le style visuel du jeu, enfin surtout sur la première partie du jeu, qui nous propulse dans une zone de guérilla urbaine, justement, avec un filtre jaune sur toute l'image. C'est clairement inspiré par la chute du Faucon Noir. Savoir que la chute du Faucon Noir, elle a inspiré Call of Duty, d'ailleurs, parce que Modern Warfare 2 est quasiment une repompe de ce film-là. Ils ont même repris Hans Zimmer, qui avait écrit le thème de la chute du Faucon Noir, pour écrire la musique de Modern Warfare 2.
Mais voilà, parce que Activision, ils avaient l'argent que Konami n'avait pas.
Et ben voilà, exactement. Kojima, il est aussi inspiré par le film Les Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón. Ça a eu un gros impact sur lui, parce que, je sais pas si tu te souviens des Fils de l'Homme, mais il y a beaucoup de séquences en plan-séquence, justement, dans des villes détruites, etc. Et il y avait une ambiance réaliste dans ce film qu'il a vraiment marqué. Il a essayé de retranscrire ça. Mais Kojima, il souhaitait également conserver les éléments de furtivité des précédents épisodes de la série, parce que c'est quand même un jeu de furtivité, Metal Gear.
Ouais.
Ce qui a conduit l'équipe à abandonner le concept original qui s'appelait No Place to Hide, où vraiment c'était un concept de... Bon, c'était un jeu d'action, tout bêtement. Et finalement, MGS4, ce sera un peu un mélange des deux styles. Donc, le meilleur de la furtivité et le meilleur de l'action. Mais c'est également un film... caché dans un jeu, enfin plutôt quatre films cachés dans un jeu, parce que MGS4, il a beaucoup de cutscenes, avec, comme on l'avait dit, 8 heures de cutscenes au total, des cutscenes dans lesquelles on joue pas, hein, je le rappelle.
Ah ouais, c'est un film, ouais.
Et c'est le détenteur au Guinness Book du record du jeu avec la plus longue cutscene, parce que la cutscene de fin du jeu, elle dure 71 minutes. Donc, faut être prêt hein, quand on finit le jeu. Faut être prêt à avoir 71 minutes à regarder.
Faut débrancher le téléphone, tu réponds pas à la porte, rien. Hein, ouais.
C'est pas le jeu où c'est 23h40 et tu dis « Allez, je fais juste ça et après j'arrête. » Non, 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 sinon t'es foutu. Mais c'est surtout, pour moi, je trouve que c'est un peu l'épisode le plus schizophrénique de la franchise, parce que MGS4, il passe constamment de moments d'émotion intense à des scènes d'action haletantes, à des scènes complètement débiles à base de blagues, des blagues à base de prout et de caca, ou des séquences où on peut faire danser les boss féminins du jeu sur de la musique J-pop et les prendre en photo. Enfin, MGS4, c'est une expérience à part entière. Et d'ailleurs, on a un personnage, le fameux personnage de Johnny Sasaki, qui aura marqué... beaucoup de gens dans ce jeu, et je vais te laisser nous en parler.
Oui, Johnny Sasaki, un des personnages les plus emblématiques de la saga Metal Gear Solid, alors qu'il n'est pas tant mis en avant que ça. En fait, c'est un personnage récurrent dans l'univers. Il a un rôle assez important, mine de rien, dans le quatrième épisode, puisqu'il va vivre une petite amourette avec le personnage de Meryl. Même une grosse amourette, il va prendre un rôle qui prend de l'ampleur, mine de rien. Et ça donne d'ailleurs des scènes assez étonnantes, hein, comme tu le disais, dans l'univers de Metal Gear, mais c'est pas pour ça que Johnny Sasaki est connu. Comme je le disais, il apparaît dans tous les jeux à partir de Metal Gear Solid. Dans Metal Gear Solid 1, c'est le garde que tu trouves inconscient et à poil d'ailleurs au début du jeu, à l'extérieur de ta cellule, parce que Meryl vient de l'assommer pour lui piquer ses fringues. Tu le recroises plus tard dans le jeu quand t'es toi-même enfermé dans une cellule et tu te rends compte assez vite qu'il vit mal la vie en Alaska parce que il a une diarrhée carabinée et il passe la moitié de son temps aux chiottes. Mais Johnny Sasaki, c'est un mec persévérant, il revient dans Metal Gear Solid 2, on peut l'entendre en fait, tu le croises pas directement, mais tu as à un moment donné une mission, tu as un micro, tu dois t'infiltrer et écouter un petit peu avec ton micro ce qui se passe, et si tu orientes le micro vers les toilettes, tu peux entendre Johnny Sasaki qui est aux toilettes, parce que il a à nouveau la chiasse, et il commente que d'ailleurs, je cite, celle-ci est pire que celle qu'il avait en Alaska, donc c'est bien le même gars que tu retrouves. Bien sûr, on le retrouve, comme je le disais, dans Metal Gear Solid 4, puisqu'il a son histoire avec Meryl, mais aussi parce que on le surprend en train de se cacher dans un tonneau pour faire caca. Voilà, c'est le motto du personnage. C'est une tradition familiale, d'ailleurs, chez les Sasaki, de faire caca, puisque dans Metal Gear Solid 3, on croise son papa, le papa de Johnny Sasaki, qui surveille lui aussi notre cellule, quand on se fait enfermer à un moment donné au milieu du jeu. Et on peut s'évader, en fait, parce que de temps en temps, il est obligé de quitter son poste de surveillance pour aller faire caca. Voilà.
Wow.
Bref, le personnage de Johnny Sasaki, c'est un running gag dans Metal Gear, et on apprécie parce que les blagues de prout et de caca, c'est toujours drôle, ça rate jamais. Voilà. Mais il a une histoire un peu plus profonde que ça en réalité, parce que Sasaki, c'est le nom de famille de Hideki Sasaki, qui est un artiste 3D qui est arrivé chez Konami au moment du premier Metal Gear Solid et qui a intégré l'équipe de Kojima. Et apparemment, l'équipe de développement aimait bien se foutre un petit peu de sa gueule et ça a dérapé au point de créer un personnage dans le jeu qui porte son nom et qui fait tout le temps caca. Alors, heureusement pour lui, il a pris la blague assez bien.
Mais quelle horreur.
Il a continué à travailler dans l'équipe de Kojima jusqu'à Metal Gear Solid 5 et il a même suivi Kojima après son départ de Konami puisqu'il a bossé également sur Death Stranding, donc ça va, il le prend bien et tout est bonne ambiance. Je sais pas s'il fait autant caca dans la vraie vie, mais en tout cas dans les jeux vidéo.
Oh ouais. Mon Dieu, le pauvre gars. Voilà, comme tu l'as dit, les bonnes blagues, on les utilise.
Ah non, mais on les garde, oui, c'est dans les vieux pots, les meilleures soupes, tout ça.
Voilà, bon, comme on l'a dit, MGS4, c'est la conclusion de la saga. Bon, on y retrouve Snake, mais qui est extrêmement vieux, extrêmement vieilli, grâce à un petit plot twist bien pratique, et qui se bat à la fois contre le monde et contre le temps qui lui reste à vivre, parce qu'il lui reste à peu près un an à vivre, quelque chose comme ça. Et ce désespoir vraiment du personnage qui est vieux, fatigué, et qui se bat pour sa survie, il s'entend à deux moments très marquants dans le jeu, musicalement. On a le fameux Love Theme, qui est pendant la fameuse scène du micro-ondes. Ceux qui ont fait le jeu, ils sauront de quoi je parle.
Oui, parce que j'avoue, le nom, la scène du micro-ondes, ça paraît bien. Tu dis quoi, mais alors, comment ça peut être dangereux à ce point-là, un micro-ondes? Mais si.
C'est AD5 que je l'ai appelé comme ça. Ce morceau, il s'adapte pas trop au format du podcast, honnêtement. Donc, je vous conseille de l'écouter de votre côté. C'est un très beau morceau qu'il faut écouter de son côté. Mais là, on va passer le morceau Old Snake, qui est le thème principal de MGS4, composé par Harry Gregson-Williams. Et pareil, qui je trouve, nous parle bien de ce personnage-là. Donc voilà un super morceau qui nous raconte tout sur le personnage en quelques minutes. Vraiment cool.
Ouais.
Old Snake, comme on l'a dit, composé par Harry Gregson-Williams, donc qui revient pour la troisième fois, sa troisième collaboration. Le style musical de MGS 4, il est, au global, il est beaucoup plus blockbuster que les précédents volets, avec beaucoup plus de cues d'action et d'ambiance un peu plus hollywoodienne. Mais Harry Gregson-Williams, il prend quand même le temps de construire une palette sonore différente, notamment sur cette introduction, où il nous fait entendre de la guitare acoustique, ce qui est une première pour la série, c'est la première fois qu'il y a cet instrument. La guitare électrique, elle avait été utilisée dans MGS3 à outrance avec la technique du palm mute pour donner une sonorité très 60s. Mais là, c'est question de nous présenter un personnage fatigué, vieux et en décalage avec son temps. Et franchement, quoi de mieux qu'une guitare acoustique au milieu d'un soundscape et un sound design purement électronique pour exprimer ce décalage? Moi, je trouve ça génial.
Ouais.
Parce que les palettes sonores, vraiment, c'est quasiment aussi important que les mélodies dans une BO. Et je suis vraiment content qu'il ait pris le temps de réfléchir à ça pour MGS4 parce que ça paye vraiment. Mais c'est pas le seul compositeur sur le projet, hein, parce qu'il y a également Nobuko Toda, qui était le compositeur des jeux Metal Gear Acid, dont on n'a pas parlé, mais c'est des jeux pour appareils mobiles. On a Shuichi Kobori également. On a Kazuma Jinushi, j'écorche un peu les noms, je suis désolé. Akihiro Honda, Sota Fujimori. Et aussi, on a une société freelance qui s'appelle Gem Impact. Et en fait, c'est la société créée par Norihiko Ibino. Après Metal Gear 3, il est parti, il a créé sa société freelance. Il y a deux compositeurs, Yoshitaka Suzuki et Takahiro Izunati, qui travaillent dans cette société avec lui. Et ils ont été appelés en renfort à la fin de la production du jeu parce qu'il y avait juste trop de musique à faire. Donc eux, ils ont composé 90 minutes de cutscene, ce qui paraît énorme. Mais en fait, pour MGS4, ce n'est que poussière dans le vent, n'est-ce pas? Mais donc, ouais, cette petite armée, elle se répartit les tâches parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de musique à composer. Parce que le jeu, il est ambitieux, hein. C'est une exclusivité PS3. Les ingénieurs de chez Konami, ben, une nouvelle fois, ils ont besoin de réécrire leur moteur de zéro parce que c'est une nouvelle console. Ils regardent le fameux Cell, qui est le processeur de la PS3, qui est un processeur 8 cœurs. Ils se disent que si on l'utilise intelligemment, on peut exécuter beaucoup de tâches simultanément avec ce processeur-là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent leur moteur avec le Cell de la PS3 comme base et ils assignent plusieurs tâches à certains cœurs, en fait. Donc, il y a la physique des objets sur un cœur, les animations sur un autre cœur, etc., etc. Ce qui fait que MGS4, bah, encore une fois, à sa sortie, techniquement, waouh.
Ouais, il est balèze, ouais.
Ouais, c'est une belle... Je pense que c'est... Un des jeux les plus beaux de la PS3. Bon, il y a Naughty Dog aussi qui fait des trucs incroyables, mais je pense que c'est un des jeux les plus beaux de la PS3 à l'époque.
Ouais, ouais.
Et cette technique couplée à l'action décomplexée du titre, ça permet à l'équipe de vraiment avoir un moteur boosté aux hormones et de booster toutes les mécaniques de la série. Comme on l'a dit, on a le meilleur de l'infiltration parce qu'on a un nouveau camouflage, un camouflage futuriste qui s'adapte aux zones sur lesquelles on... C'est un peu comme une peau de caméléon. Quand on se couche par terre ou sur les murs, le camouflage change automatiquement. On a une très grande variété d'armes et de modes de visée. Et j'ai pris un morceau pour illustrer cette action débridée un peu. Un autre morceau de Harry Gregson-Williams qui s'appelle « Desperate Chase ». Et en fait, je me suis dit que j'avais passé ça également parce qu'il fait référence à un autre morceau. On va se l'écouter et on va en parler après parce que je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens de la séquence du jeu qui accompagne ce...
Oui.
C'est une question rhétorique, hein. Je savais très bien que tu allais t'en souvenir. très bonne séquence d'ailleurs, course-poursuite sur la Jeep, ouais. Enfin, très très bonne séquence. Et avec un personnage qui conduit la Jeep, un personnage qui s'appelle Big Mama. Et si vous vous êtes dit, pour les plus attentifs, que ce morceau qu'on vient d'écouter ressemblait étrangement à Escape from the Fortress de Metal Gear Solid 3, eh bien en fait, c'est parce que ça en est une référence directe. Parce que Desperate Chase, qu'on vient d'écouter, il nous fait vivre une course-poursuite sur une Jeep avec Old Snake et un personnage qui s'appelle Big Mama. Alors là, bon, je vais un tout petit peu spoiler, je suis désolé, mais Big Mama, on se rend compte que c'est Eva de MGS3. Et Eva s'était échappée de la même manière avec Naked Snake à bord d'une Jeep. Dans MGS3, le morceau, c'était Escape from the Fortress. Et là, vu qu'on recrée un peu la séquence des années plus tard, ça devient Desperate Chase et c'est une référence directe. Comme quoi, c'est bien en fait de garder le même compositeur entre les épisodes d'une saga parce qu'il peut faire des clins d'œil musicaux pour les fans les plus attentifs. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool.
C'est clair.
Il s'amuse en fait à reprendre les orchestrations et les accords de Escape from Fortress, mais il les pousse un peu plus loin du côté mélodique parce qu'encore une fois, bah, du temps a passé et Snake est un peu plus vieux. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est ce que j'allais dire. En gros, c'est un truc que s'amuse beaucoup à faire Metal Gear Solid 4, c'est à revenir. Il fait ça en permanence. À revenir sur les anciens événements vu que c'est le plus avancé dans le temps de la saga et qu'il est censé, selon Hideo Kojima, conclure l'histoire de Solid Snake. Il revient un peu sur tous les événements passés, donc on revient à Shadow Moses, je vais pas tout spoiler, mais on revient à Shadow Moses, on revient à plein d'endroits visités auparavant dans les anciens jeux, et il y a souvent des musiques qui reviennent d'une manière ou d'une autre quand on réexplore, ouais. Avec des flashbacks, avec tout ce qui va bien, c'est un petit peu un jeu qui revient sur toute l'histoire de Solid Snake, en fait. C'est assez intéressant de ce côté-là.
Ouais. Ah, carrément. Je pense que l'épisode de Shadow Moses a mis des larmes dans les yeux de beaucoup de joueurs.
Ah oui.
Bon, évidemment, qui dit Metal Gear Solid dit galerie de boss. Alors, ça, c'est très personnel. Moi, je trouve qu'ils sont un peu moins charismatiques que les précédents volets, les boss, parce que là, on a l'équipe des Beauty and the Beast, qui sont quatre femmes sexy. Je trouve que c'est un peu plus une excuse pour Kojima pour modéliser les mannequins européens sur qui il fantasme qu'autre chose.
C'est complètement ça.
C'est complètement ça. Il y a d'ailleurs une rumeur comme quoi les motion capture ont été faites avec des femmes nues pour ces personnages, sans qu'il y ait de raison particulière, finalement.
Mais ça va même plus loin que ça. C'est que au départ, il semblerait qu'il avait prévu que, tu sais, quand tu affrontes les Beauty and the Beast dans leur armure, une fois que t'as battu leur armure, elles sont juste en combinaison moulante. Et il avait prévu qu'il y ait une autre phase où elles sont entièrement nues. Mais Konami lui a dit, écoute, on peut pas faire ça parce que sinon le jeu va être adult only et il va bien moins se vendre. Donc, on peut pas, mais il était prévu qu'il y ait plein de personnages féminins entièrement nus dans le jeu. Et il s'est fait un petit peu freiner par Konami qui lui a dit « Mec, t'es un adulte, comporte-toi comme tel, s'il te plaît.
» Ouais, ça l'a pas empêché de faire ce petit moment d'introspection quand tu bats chaque boss où tu peux les prendre en photo sur de la musique.
Voilà.
Mais bon, on a quand même dans MGS4 la confrontation tant attendue entre Snake et Ocelot, hein, le super antagoniste de tous les épisodes, et qui nous permet de finir la saga au ralenti, torse nu, en se mettant des patates sur le soleil couchant. Enfin, c'est fort apprécié.
Ouais, mais cette séquence, elle est incroyable, mine de rien. Enfin, elle est caricaturale par plein d'aspects, mais en vrai, elle est incroyable à faire. Hein.
Elle est incroyable, et je pense que tous les gens qui ont joué au jeu le mettent dans leur top des meilleurs moments de MGS, très honnêtement, parce que il y a un truc, un délire avec les noms des personnes. Enfin, bon, il y a plein de super idées comme d'habitude. Metal Gear, c'est une série très riche.
Ouais.
Mais bon, les fans, ils ont été repus parce qu'avec cet épisode, parce que le jeu, il a récolté des notes dithyrambiques à sa sortie. Les ventes ont été vraiment bonnes pour une exclusivité console, quoi. Donc vraiment, vraiment bonnes. Et bah, tout le monde se dit naturellement que la série Metal Gear, voilà, c'est terminé et que Kojima, bah, il va enfin pouvoir passer à autre chose parce que rappelons-nous, Nico, c'était le dernier Metal Gear de Kojima, n'est-ce pas?
Ben oui, exactement. C'est pour la 4 ou 5e fois d'affilée, c'est le dernier Metal Gear de Kojima. Il faut dire qu'il a du mal à se débarrasser de cette série. Il faut quand même préciser qu'au départ, quand il a commencé à travailler sur les Metal Gear, c'était pas son projet. Hein. C'est quand même important de le rappeler. C'est que au début, c'est Konami qui l'a mis là-dessus parce qu'ils ont changé le directeur du jeu, ils l'ont mis à la place. Mais au départ, il s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, je vais faire Metal Gear ». Mais non, il a récupéré le projet de quelqu'un d'autre à la base, hein, et il est toujours bloqué dessus 20 ans plus tard. Donc, au début, il fait le Metal Gear en se disant « Bon, c'est terminé, j'en ferai pas de nouveau. » Puis, il découvre, en prenant le train avec un de ses collègues, que Konami a lancé une suite sans le prévenir. Donc, il se dit « Bon, ben ok, je vais faire ma propre suite de Metal Gear, sort Metal Gear 2. » Ensuite, bon, ben voilà, il bosse sur Police Note avec Shinkawa. Il se dit « Je vais faire autre chose. » Mais pendant qu'il bosse dessus, il se dit « Ah, ben, ce serait pas mal de reprendre ce qu'on a fait sur ce jeu pour le mettre dans Metal Gear. » Donc, sort Metal Gear Solid. En plus, maintenant, il a une équipe avec laquelle il s'entend bien. Donc, il se dit « On va continuer à faire des Metal Gear. » Metal Gear Solid marche tellement bien que Konami lui dit faut faire un 2 mon gars, il faut prendre la thune où elle se trouve. Donc bon, bah il fait Metal Gear Solid 2, très bien, là il se dit ça y est, c'est terminé, on a fini. Sauf que Konami lui dit non, continue les suites là, ça rapporte de l'argent, pourquoi tu t'arrêtes? Donc du coup il se dit ouais non mais j'en ai marre, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, personne d'autre veut le faire. Donc bon bah il reprend, il fait Metal Gear Solid 3, mais là il se dit j'ai trouvé la feinte, je vais pas faire une suite aux deux, je vais faire une préquelle, comme ça au moins on pourra pas me demander une suite, parce que la suite ce sera le jeu de 87, et comme ça hop, la boucle elle est bouclée, à faire classer on passe à autre chose. sauf que après la sortie de Metal Gear Solid 3, les fans ils sont pas trop contents non plus, parce qu'ils disent t'as laissé Metal Gear Solid 2 sur un cliffhanger. Lui il pensait que les fans allaient créer leur propre lore et terminer l'histoire eux-mêmes, mais non, un fan ça marche pas comme ça, un fan ça veut qu'on lui raconte toute l'histoire. Et donc ils lui disent il faut faire Metal Gear Solid 4, maintenant faut terminer le scénario. Donc il termine le scénario avec Metal Gear 4. Au départ il avait même prévu à la fin du scénario de faire mourir les personnages de Solid Snake et d'Otacon, comme ça il est sûr et certain qu'on lui demandera pas une suite.
Arrêtez de m'emmerder.
Voilà, exactement. Mais voilà, il annonce dès le début du développement de Metal Gear Solid 4 que là, cette fois-ci, promis juré, c'est son dernier jeu. Il explique, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il voulait passer le flambeau à Shuyo Murata, dont il a dû revenir sur cette décision, mais voilà, toute la communication s'est placée autour du fait que c'était son dernier jeu et que même il allait pas vraiment travailler dessus. La campagne de communication No Place to Hide, si tu te rappelles bien, le tout premier trailer affichait au début No Place to Hide, et la phrase suivante c'était No Place for Hideo, qui était un jeu de mots avec Hyde, en disant voilà, Hideo qui disait moi j'ai pas de place dans ce jeu, je vais pas travailler dessus, c'est plus mon jeu. Pendant la communication du jeu, il avait aussi annoncé que le jeu allait être dirigé par un réalisateur qui s'appellerait Alan Smithy, que les fans de cinéma connaissent bien, puisque c'est le pseudonyme que prennent les réalisateurs qui veulent pas assumer leur film quand il sort au cinéma. Faut bien qu'un réalisateur signe, et s'ils veulent pas mettre leur nom, en général ils signent Alan Smithy. Il y a une bonne trentaine, plus que ça, de films qui sont signés Alan Smithy au cinéma, et il a voulu faire ça aussi avec Metal Gear Solid comme une blague en tout cas. Mais voilà, tout indique que il fera plus de Metal Gear, et d'ailleurs il a commencé à briefer son équipe lui disant voilà, maintenant si vous voulez une suite à Metal Gear, faudra la faire vous-même, parce que moi j'y serai plus, promis juré, cette fois-ci c'est sûr et certain. Hein, c'est sûr et certain, non? N'est-ce pas, Rémi?
Mais là, la feinte, la vraie feinte que Kojima nous a faite, et on s'est tous fait avoir comme des bleus, parce que MGS4, oui, c'est la fin de la saga Solid Snake. Mais la timeline entamée avec Metal Gear Solid 3, elle est pas finie. Ha, c'est bien vu, c'est malin.
Oh.
Il faut reconnaître que c'est malin. Donc la vérité, c'est qu'un nouveau jeu de la franchise, réalisé par Kojima, était en développement en parallèle de MGS4. Ce jeu, il s'appelle Metal Gear Solid Peace Walker. Parce qu'il faut se rappeler un truc, c'est que la PSP qui était sortie quelques années avant avait vraiment explosé. Et avec l'explosion de la PSP, il y a un public plus jeune qui s'intéresse aux jeux vidéo. Et là, Kojima et son équipe, ils se disent que ce serait bien de faire un MGS sur console portable, en rendant la formule un peu plus accessible pour s'adapter au public et au support. Et donc, le jeu, bon, au final, il est un peu moins axé sur l'infiltration et un peu plus pour l'action. Et il sortira en 2010, et malheureusement, à sa sortie en 2010, Metal Gear Solid Peace Walker sur PSP, il se vautre complètement, parce que 2010, ça annonce surtout la fin de vie de la hype sur les consoles portables, en fait. C'était fini, c'était passé. Pourtant, le jeu est très très bon, les ambitions étaient très élevées aussi. Bon, déjà, il est développé sur un tout nouveau moteur qui s'appelle le Fox Engine, et qui se veut le nouveau moteur qui servira de standard pour toutes les productions de Konami dans le futur. Ensuite, en tant qu'épisode officiel, il était nommé d'ailleurs Metal Gear Solid 5 Peace Walker en interne. Le scénario, il est très très poussé. Il introduit beaucoup de nouveaux personnages, il développe l'histoire de ce qu'on considère maintenant comme le nouveau Snake, même s'il s'agit de l'ancien Snake. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est, voilà.
Bah, en même temps, ils s'appellent tous Snake, ça devient difficile à suivre.
Ouais, c'est un peu compliqué là. Les scènes cinématiques, elles sont très bien travaillées parce que c'est un style 2D très, très comic book avec des onomatopées, des bulles qui apparaissent. Moi, je trouve ça très joli. Et les principes de gameplay, ils sont partagés et repris de MGS4. Et le jeu, il est découpé en missions courtes parce que c'est un épisode sur console portable, donc il faut faire des petites parties. Donc c'est en missions courtes. Le titre, il introduit également le principe de Mother Base, qui est littéralement un jeu dans le jeu où on doit capturer ou plutôt recruter des gens. Mais bon, on les recrute en attachant des ballons d'hélium sur leurs pieds. Donc pour moi, c'est plus ou moins capturer des soldats pour agrandir notre base et fortifier notre base. C'est une idée super sympa qui ajoute beaucoup de profondeur et de durée de vie au jeu, tout bêtement. Je sais pas si tu l'as fait, toi, Peace Walker, au moment de sa sortie. Je sais pas si t'as
vu. Ouais, je l'ai fait.
Très bien.
Alors, je l'ai pas fait au moment où il est sorti. Je l'ai fait quand il a été ressorti sur la HD Collection, je crois, quelques années plus tard. Oui. Mais ouais, je l'ai fait. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ouais.
Oui, ouais, très très bon épisode. Malgré le fait qu'il se soit vautré complètement, c'était un très bon jeu.
Ouais.
Le cinéma, bon, il est toujours là pour inspirer Monsieur Kojima, même si cette fois, en fait, c'est surtout les séries de télé qui l'inspirent, parce qu'il faut se rappeler que début des années 2000, il y a ce qu'on appelle le renouveau des séries de télé qui a explosé, et le médium a beaucoup changé. Avant, on avait les séries, on va dire, on avait les anciennes séries de télé, maintenant, on a toutes les nouvelles qui cartonnent et qui changent complètement le médium. Donc Peace Walker, il suit la tendance et il découpe le jeu en missions qui sont en fait des épisodes d'une série, parce qu'on a le fameux « to be continued » à la fin de chaque mission. Tu sais. Ça fait du sens pour de la portable. Il faut savoir que Alan Wake, développé par Remedy, ils avaient essayé la même chose avec une conclusion à la fin de chaque chapitre avec un « to be continued ». En vrai, c'est inutile, ça sert à rien parce que ça bloque le déroulement du jeu. Ça introduit des arrêts forcés qui servent pas à grand chose, à part frustrer le joueur. Et la différence entre un jeu et une série, c'est que autant le rythme d'une série, il est imposé, autant dans un jeu, c'est le joueur qui avance à son rythme et selon son envie. Donc on peut pas lui dire, c'est fini pour ce soir, rendez-vous au prochain épisode. Ça fait aucun sens.
Ça dépend. Moi, je considère, parce que j'ai tendance, ça peut m'arriver d'avoir un usage un peu obsessionnel des jeux. Et il peut y avoir des moments où je me dis, bon, je vais jouer 2 heures ce soir. Et en fait, 2 heures plus tard, il est 5 heures du matin. Donc, c'est bien aussi que le jeu me dise de temps en temps, c'est pas mal si tu t'arrêtes ici, en fait. Hein, t'inquiète pas, tu vas rien rater.
Arrête, suffit. La musique, elle, de Peace Walker, elle est composée par les membres de l'équipe sonore de Kojima Productions et non plus du Konami Kokea Club, hein. Hein, on le sent là, le petit changement de paradigme qui est en train de s'opérer là. Donc on a Kazuma Jinuchi, on a Nobuko Toda et Akihiro Honda. Alors je dois avouer que les thèmes, ils sont très très bons. La musique, elle est très très bonne de Peace Walker, vraiment. Notamment le thème principal qui est super bien.
Mais
il y a un petit côté qui me fait sourire, c'est que c'est une série qui se veut anti-nucléaire, anti-guerre, anti-course à l'armement. Et en fait, au fil des épisodes, la musique, et notamment sur Peace Walker, elle est de plus en plus militaire, américaine, blockbuster, pam pam boum boum, pour en faire une analyse très profonde et intelligente. Et ça m'a toujours fait sourire, cette espèce de dichotomie entre ce que le jeu raconte et ce que la musique nous propose. J'ai donc décidé de prendre un morceau, non pas le thème principal, un morceau différent, et en fait, j'ai carrément pris le boss de fin, hein, je suis désolé pour le spoiler, mais j'ai pris le boss, le vrai boss de fin, hein, le boss de la vraie fin.
Le trou las boss, ouais.
Voilà. Alors, je dois avouer que la première fois que j'ai entendu ce morceau, quand j'écoutais la BO, parce que moi, j'ai pas fait Peace Walker, quand j'ai entendu ce morceau, j'ai fait « Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ?» Parce que la série, elle est connue hein, pour ses pitreries, ses easter eggs et tout. Donc, au final, je me suis dit que c'était plus ou moins dans le ton, mais j'en dis pas plus. Pour les gens qui connaissent pas Peace Walker, on va s'écouter un morceau qui s'appelle « Love Deterrence » et on en parle un tout petit peu après.
きっと君を見つけ
Voilà, morceau très surprenant, mais très très cool au final.
Mais oui.
Très bien produit, très très bon. Très très bon, malgré l'utilisation du vocodeur un peu trop abusive à mon goût, mais très 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 bon morceau. Bon, alors, loin de moi l'envie de spoiler la fin du jeu, mais bon, pour remettre ce morceau dans le contexte, je dirais gros robot et petite culotte. Voilà, vous avez à peu près l'idée de ce qui se passe à ce moment-là.
Non, mais là, tu viens de résumer la totalité de Peace Walker, en fait. Faut être plus précis que ça.
de son titre japonais, alors je vais sûrement l'écorcher, Koino Yokushiro Yuku. Love Deterrence, c'est le premier image song composé pour la saga Metal Gear, en fait. Les image songs, c'est, en fait, c'est un phénomène purement japonais de composition de musique attachée à des personnages de jeux ou d'animés qui sortent en single avec des pochettes représentant le personnage en question. Et c'est un truc qui se fait beaucoup. Et c'est la première fois que c'était fait pour Metal Gear. Je vais pas dire de quel personnage on parle, etc. Mais voilà. La chanson a été écrite par Akihiro Honda et le chant, il est assuré par la doubleuse Nana Mizuki. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce morceau, sauf que je l'aime bien et que, bah, j'étais content de le passer.
Non, non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même, il faut préciser, donc c'est un morceau qui passe pendant un combat de boss et qui est effectivement chanté par un personnage du jeu, hein, techniquement. Donc il faut s'imaginer que c'est un morceau qui existe dans la diégèse du jeu, et donc il faut s'imaginer qu'au moment où ce Snake se bat à mort pendant le combat de boss, il y a cette musique qui il entend littéralement cette musique pendant qu'il essaie de survivre, quoi. Tu sais, tu dis, bon, pourquoi pas.
Mais oui. Si on parlait du fait que Kojima utilise souvent des stars de cinéma pour ses jeux, pour Peace Walker, il utilise aussi ses amis, finalement, non?
C'est ça, exactement. En fait, on a effectivement pas mal parlé du fait qu'il s'est inspiré pour le design de certains persos de stars du cinéma parce qu'il regardait beaucoup de films, donc il est allé chercher là où il avait la culture. Mais on n'a pas effectivement parlé des cas où il a utilisé des vraies personnes de son entourage. On en trouve effectivement dans Peace Walker, puisque à un moment donné dans le jeu, on croise le personnage de Cécile Cosima Caminades, qui est une ornithologue française qui croise en mission et qui va rejoindre sa base ensuite. et qui est basé sur une vraie personne. Il s'agit en réalité de Cécile Caminades. Alors oui, il n'est pas allé chercher très très loin pour le nom, hein, tu vas voir. Cécile Caminades, c'était la responsable des relations presse de Konami France au moment du développement de Peace Walker. Vu le taf qu'elle avait, elle a forcément beaucoup bossé avec Kojima quand il venait en France. Et ils sont devenus amis assez proches, ce qui a conduit à une promesse qu'il lui a faite en 2008 de lui donner un rôle dans un de ses jeux. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans un rôle secondaire dans Peace Walker. Il a même poussé le vice à aller jusqu'à modifier un petit peu son nom, puisqu'elle porte le nom, son middle name, comme on dit, c'est Kojima. Dans la version occidentale du jeu, il se trouve qu'en katakana, ça se prononce exactement comme Kojima, quand tu le prononces à la japonaise, parce qu'il faudrait quand même pas oublier qui est le patron, mais voilà, surtout, c'est pas la première fois, en fait, qu'il fait ça. Il l'avait déjà fait quelques années auparavant, notamment dans Metal Gear Solid 2, puisqu'il a donné à Rosemary, qui est la femme de Raiden, avec qui on discute beaucoup par codec dans Metal Gear Solid 2 et qu'on revoit plus tard dans Metal Gear Solid 4, l'apparence de Rosemary est en fait basée sur sa vraie femme dans la vie réelle à Kojima, et ça, c'est mignon tout plein.
Oh, mais oui, c'est pour ça qu'on fait des jeux vidéo, non? C'est pour...
Ben oui, exactement.
Malgré ses qualités, Peace Walker, il n'aura pas réussi le pari de vendre des millions de copies, mais par contre, il aura pavé la route pour le prochain et dernier jeu de cette émission. Dernier, vraiment? On verra. Mais Metal Gear Solid 5. Ou plutôt Metal Gear Solid Ground Zero. Non, attends, c'est Metal Gear Phantom Pain. Oh là là, bon, attends, il faut qu'on fasse un petit point, parce que là, il y a beaucoup trop de noms. Il faut se dire que toute cette histoire, elle part encore une fois du fameux nouveau moteur, le Fox Engine. Parce que oui, Peace Walker a servi à mettre en place les bases du moteur, mais c'était un jeu PSP. Donc, les capacités techniques de la PSP faisaient qu'on ne pouvait pas vraiment pousser pleinement le moteur. Il y a un spin-off qui s'appelle Metal Gear Revengeance qui a été commencé sur le Fox Engine avant d'être confié à Platinum Games. Et non, on ne va pas parler de Revengeance parce qu'il n'est pas réalisé par M. Kojima et surtout parce que je me le garde pour un épisode hors série. Astuce, chez vous. Le Fox Engine étant planifié pour être le nouveau standard de Konami, entre parenthèses, il a été utilisé pour Pro Evolution Soccer 2014 d'ailleurs, il fallait en mettre plein la vue. Et donc, il fallait un très gros projet pour en être la vitrine sur les nouvelles consoles qui allaient débarquer, la PS4 et la Xbox One. Donc Hideo Kojima, il se voit en charge de ce projet vitrine, intitulé Projet Ogre, du fait de sa taille gargantuesque, parce qu'à l'époque, le meilleur moyen d'en mettre plein la vue, c'était de faire un jeu en monde ouvert, qui soit à la fois vaste, riche et super beau. Donc il fut assez vite révélé que le fameux projet Ogre, en fait, c'était un nouveau Metal Gear. La licence, elle était parfaite pour être le porte-étendard du nouveau Fox Engine. Et le jeu est la suite directe de Peace Walker. Même si la plupart des joueurs occidentaux n'ont pas fait Peace Walker et donc vont passer à côté de toutes les références aux personnages de Peace Walker, c'est quand même la suite directe. La communication autour du titre, elle est un peu nébuleuse, je trouve, parce que lors de la présentation de l'E3, Kojima, il montre un premier trailer de Metal Gear Ground Zero, qui impressionne tout le monde parce que la technique, elle est irréprochable. Hein. Merci le Fox Engine, vraiment, c'est beau. Quoi. Mais lors de la présentation, Kojima, il dit que en fait, c'est un prologue pour quelque chose de gros, sans trop dire ce que c'est. Alors là, ça laisse un peu tout le monde un peu confus parce que les gens, ils se disent, alors, est-ce que c'est un prologue pour un nouveau Metal Gear? Ou est-ce que c'est juste une démo technique et c'est un prologue pour un projet qui n'a rien à voir? Plus tard, on apprend qu'un studio suédois appelé Moby Dick Studios travaille sur un projet appelé The Phantom Pain et que ça ressemble bizarrement à Ground Zero. Donc les gens, ils commencent à se poser des questions. Finalement, ils finissent par comprendre que Moby Dick Games, ça n'existe pas et que Ground Zero, c'était le prologue pour permettre aux fans de patienter en attendant la sortie de MGS5 The Phantom Pain. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une manière un peu étrange de communiquer et de compliquer quelque chose qui aurait pu être un peu plus simple. Mais peut-être tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, effectivement, toute cette histoire de Moby Dick, etc., d'où ça vient. Alors, effectivement, à ce stade, on en est au 8e jeu traité dans cet épisode. Donc, au point où on en est, on a bien compris que Kojima, il aime bien mentir à son public et brouiller un peu les pistes. Alors, il a même expliqué en interview qu'il détestait quand Hollywood se contentait de proposer des choses prévisibles à son public et de répondre à une attente, parce que lui, il aime bien cacher un peu son jeu et faire un petit peu des choses qui vont surprendre. Et c'est pour ça qu'il a effectivement fait croire que The Phantom Pain était en réalité un projet développé par un studio suédois du nom de Moby Dick et dirigé par un certain Joachim Mogren. Joachim Mogren, qui a même eu l'honneur d'une interview de Geoff Keighley pour parler du jeu, qui s'est présenté à l'interview avec la tête couverte de bandages en disant « Non, mais c'est parce que j'ai eu un accident de moto, mais vous inquiétez pas, je travaille sur le jeu, tout va bien. » Personne n'a trop compris, mais les fans de Kojima, comme ils ont l'habitude qu'on se foute un petit peu de leur gueule, ils commencent à chercher des signes là où il n'y en a pas forcément. Et parfois, ils en trouvent. Ils ont très vite compris, par exemple, que le prénom Joachim, c'est un anagramme de Kojima, par exemple. Ils ont aussi compris que dans Mogren, on retrouve toutes les lettres du mot « ogre ». Donc, ils se disent « Ok, il y a un rapport direct avec Metal Gear Solid. C'est probablement le fameux jeu dont Ground Zeroes est le prologue, donc qui s'intéresse de très très près au projet. » Donc la couverture Moby Dick, elle a pas tenu très très longtemps pour Kojima, mais en réalité le choix de ce nom pour le studio fictif allait bien plus loin que le marketing. Je vais pas spoiler le jeu parce que c'est bien mieux de le découvrir soi-même, mais le jeu balance une quantité astronomique de références à Moby Dick spécifiquement dans son histoire. Pour commencer, au tout début de The Phantom Pain, on se réveille dans un hôpital attaqué par des terroristes et on est escorté vers la sortie par un type qui nous appelle Ashap tout le long de la séquence d'intro, et qui dit s'appeler Ismaël. Et ça, ce sont respectivement les noms du personnage principal et du narrateur de Moby Dick, hein, dans le bouquin. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais on découvre ensuite que les deux personnages, donc de Ashab, ou plutôt de Big Boss dans le jeu, et le personnage de Ashab dans Moby Dick, ont tous les deux perdu un membre au cours d'une bataille et qui cherchent à se venger. Que l'hélicoptère qui transporte Big Boss dans le jeu s'appelle Pequod, exactement comme le bateau de Moby Dick. Enfin, il y a encore plein d'autres références comme ça, plus ou moins évidentes, que j'ai pas forcément le temps de lister ici. Mais voilà, un dernier point intéressant qui relie les deux œuvres, c'est que pendant la promotion du jeu, Kojima a expliqué que le thème du jeu serait la vengeance. En fait, depuis Metal Gear Solid 1, il essaie de donner un thème un peu principal à ses jeux pour la communication, etc. Ce sont les gènes dans Metal Gear Solid 1, c'est quoi, ce sont les sens dans Metal Gear Solid 4. Enfin bref, il y a toujours un thème qui est un peu principal, et dans MGS5, c'est la vengeance. Et il se trouve que la vengeance, c'est justement le thème principal exploré dans Moby Dick, c'est la motivation principale du personnage d'Ashab dans Moby Dick, justement, ce qui, dans le livre, le conduit à sa perte. Est-ce que ça sera aussi le cas dans Metal Gear Solid 5? Écoutez, faites le jeu, à un moment donné, depuis le temps qu'on vous en parle.
Waouh, le roi du teasing. Très bon. Donc, oui, effectivement, donc, tout ça, ça entraîne un changement d'ambiance, encore une fois, mais c'est surtout que ça entraîne une ambiance très sombre, beaucoup plus sombre qu'avant. Et je parle pas que du visuel, parce que là, Kojima, il décide d'explorer des nouvelles choses. Donc, il transporte l'histoire en Afghanistan. Mais surtout, il décide de réaliser toutes les cinématiques. Là, je parle de Ground Zero. Toutes les cinématiques en plan séquence, vraiment. C'est une référence au film Rope de Alfred Hitchcock, d'ailleurs. Mmh. Et ce procédé, d'ailleurs, il a été adopté pour les nouveaux jeux God of War. Il explore également la violence beaucoup moins suggérée et beaucoup plus graphique. C'est inspiré, d'ailleurs, il l'a dit que c'était inspiré par la série Breaking Bad, parce qu'il a trouvé que Breaking Bad, enfin, il a eu le sentiment que les créateurs essayaient de pousser les limites du médium avec leur série pour raconter leur histoire, et ça l'a inspiré à faire pareil. Mmh. En fait, ces sujets violents et tabous, ils ont surtout fait que Kojima, il a beaucoup hésité pendant la création de l'histoire de MGS5, parce que le créateur en lui voulait faire aborder ces sujets, mais le producteur en lui s'inquiétait que ça plombe les ventes, en fait. Mais au final, il a gardé ça, et lors de la sortie du prologue en 2014, Ground Zero, le public a pu découvrir toutes ces nouvelles choses. On rappelle que la vraie existence de Ground Zero, c'est que Metal Gear Solid 5, bah, il prenait trop de temps de développement, en fait, et il allait rater la fenêtre de sortie de la PS4 et de la Xbox One. Donc Konami, ils sont allés voir l'équipe, et ils ont dit « Débrouillez-vous, il faut qu'il y ait un jeu Metal Gear / Fox Engine qui sorte pour ces consoles-là, donc démerdez-vous. » Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti Ground Zero. Et ça a eu le double emploi de montrer le moteur et de montrer les nouvelles mécaniques de gameplay. Et ça a surtout permis de donner de l'eau à la bouche aux gens avant la sortie de MGS5. Donc ça a très très bien fonctionné. Et cette sortie, ils l'obtiennent tous les fans un an plus tard avec l'arrivée de Metal Gear Solid 5, écrit Metal Gear Solid V, c'est pas pour rien, 2. The Phantom Pain. C'est la suite directe donc de Ground Zero, évidemment. Le jeu y reprend après la destruction de Mother Base, que les joueurs PSP avaient passé des heures à construire. Et ben, elle s'est fait détruire.
Oui.
Et donc, comme on l'a dit, le réveil de notre personnage dans un hôpital suite au crash de son hélicoptère. Personnage amputé de sa main gauche, ce qui explique le titre de Phantom Pain, donc la douleur fantôme. Et ça fait référence également, Kojima il a dit que ce titre c'était aussi une manière d'expliquer l'horreur de la guerre qui poursuit les gens et qui les hante à tout jamais, même quand ils rentrent chez eux après la guerre, ça les suit toute leur vie en fait. Après, donc là, on n'a plus Harry Gregson-Williams qui est le compositeur principal de la série. Il passe au rôle de producteur. Il compose deux morceaux pour la BO, mais ce n'est pas lui le principal compositeur. Le projet, il est dans les mains d'un Suédois, d'ailleurs. Amusant. D'un Suédois qui s'appelle Ludwig Forssell. Alors, on va s'écouter le morceau qui conclut l'introduction de MGS5 avant d'expliquer le choix de ce compositeur. Morceau qui est, je pense, le plus écouté sur Spotify. C'est un des morceaux les plus écoutés ever.
Ah ouais.
Un morceau de jeu vidéo, hein, pas un morceau ever, ouais. Un morceau de jeu vidéo. Ça s'appelle V Has Come To. Et allons-y, on se le lance.
Allez.
Oh bah c'est pas mal comme intro, dis donc.
Ah, c'est... Oui. Toujours pareil, hein, les frissons, les poils qui se dressent, tout ça.
Ah oui, là, ouais. Ça fonctionne extrêmement bien, extrêmement bien. Alors, la première réaction, quand j'ai écouté ce morceau, c'est que je me suis dit, en fait, Kojima et son équipe, ils sont allés chercher exprès un compositeur occidental pour avoir un son proche du nouveau style des blockbusters américains, tu sais, qui est un sound design ambiante imposé par Hans Zimmer, hein, on va pas se le cacher. Et les Suédois, ils sont très très bons dans ce style-là. Donc moi, tout bêtement, je me suis dit, ah ben ils sont allés chercher quelqu'un exprès pour ça. Et ben en fait, pas du tout, parce que Ludwig Forssell, Lui, bon, il a commencé ses errances musicales dans des groupes de black metal en Suède, parce qu'en Suède, le black metal, c'est très, très populaire. Donc, il a commencé là, avant de se passionner pour la culture japonaise et la musique japonaise, ce qui fait qu'une fois sa scolarité terminée, il a déménagé, s'installer à Tokyo, et il a poursuivi une formation sur l'écriture musicale pour les jeux vidéo, et il a été embauché par Konami par la suite. Et donc, en fait, il a juste été assigné à Kojima Production. Et quand il arrive sur MGS5, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, et surtout le style musical, il est déjà défini par Kojima et le directeur audio. L'idée, c'était de créer une partition, ce qu'on dit, non tonale, non harmonique, et principalement percussive, presque dépourvue de mélodie, en fait, afin de donner une impression de réalité pendant le jeu. Il voulait pas qu'on ait l'impression d'avoir un poste radio pendant qu'on joue, en fait. Il voulait que tous les sons, ils aient une substance réelle.
Ouais.
Donc, ce qui fait que la BO de MGS5, en fait, elle est très ambiante, très en retrait, etc. Ce qui n'empêche VAS comme tout d'avoir un thème vraiment reconnaissable et puissant, hein, quand même. L'un n'empêche pas l'autre.
Mmh.
Ludwig Forssell, en fait, c'était juste un employé de Kojima Production, et il va rester avec eux, d'ailleurs, pour Death Stranding. Il va les suivre pendant la scission, et il va quitter la structure un peu de temps après pour passer freelance. Mais c'est quand même lui qui compose la musique de Death Stranding 2, qui sortira dans quelques années.
D'accord.
Mais bon, c'est pas le seul compositeur sur la BO, parce que lui, c'est le superviseur, c'est le maître d'œuvre, mais il obtient de l'aide de Justin Burnett, qui est un collaborateur régulier de Harry Gregson-Williams. Mais il y a aussi Daniel James qui s'occupe du mode multijoueur. Il y a Rina Yugi et Steve Anything. Donc quand même une équipe plus occidentale que japonaise pour la première fois pour un Metal Gear. Parce que Metal Gear 5, c'est le projet le plus gros de Konami. Vraiment, là, le studio était déjà gros, 250 personnes, mais ce projet les force à ouvrir une nouvelle branche à Los Angeles pour espérer finir dans les temps, parce que malgré tout ça, le jeu, il a eu 6 mois de retard quand même. Et là, il commence à apparaître que Kojima, c'est pas le meilleur gestionnaire de tous les temps, parce que par exemple, et ça, c'est la compositrice Rika qui l'a dit en interview, par exemple, il commandait énormément de morceaux de musique aux compositeurs, donc il payait les compositeurs pour composer plein de musique, et finalement, il les utilisait pas dans le jeu. Il disait non, finalement, non, je les utilise pas. Et ce genre de petits trucs, Konami, ça commençait à les gonfler sérieux, parce que là, il commence à se poser la question bêtement du profit versus investissement, et ils se disent, attends, on a nos jeux mobiles et surtout nos machines à pachinko qui coûtent 1000 fois moins cher, et qui rapporte 1000 fois plus. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir autant d'argent dans des trucs de marque, finalement ? Faut ajouter à ça que Kojima, il prenait une importance folle dans la compagnie. Kojima Production, c'était quasiment une branche indépendante.
Mmh.
L'ego de Kojima, il commençait un petit peu à grossir aussi, parce qu'il se met en scène dans Ground Zero, d'ailleurs. Lui-même, il se met en scène en tant que personnage. Et on nous explique que son personnage, il est tellement important que Mother Base, il ne peut pas fonctionner sans lui, par exemple. Ça, je pense que ça n'a pas trop plu au management de Konami, qui sentait que leur emprise sur lui, il sentait que c'était en train de fondre comme neige au soleil. Donc, avant la sortie du jeu, il fut décidé que Konami allait fermer Kojima Production, faisant de MGS5 leur dernier jeu ensemble avant la sortie du jeu. Et Hideo Kojima fut littéralement hallucinant. Il fut supprimé de toute leur communication. Il fut viré du studio avant la fin du développement. Et surtout, son nom fut effacé de tous les matériaux promotionnels. Je trouve ça dingue.
Ouais.
Konami a même réédité des versions des anciens jeux Metal Gear pour pouvoir enlever son nom de la jaquette. Moi, je trouve ça hallucinant.
Ouais, ils étaient très très fâchés quand même. Hein. Ouais.
D'ailleurs, ce scandale, il a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Et en fait, il y a une grosse partie des joueurs qui ont trouvé que ça se sentait un petit peu sur MGS5, parce que ça donnait le sentiment que le jeu n'était pas pleinement fini. L'histoire, elle tourne un tout petit peu en rond sur sa fin. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'est pas complètement achevé, le jeu. Bon, alors qu'il est quand même énorme. Il y a pléthore de contenu.
Il est déjà énorme, mais effectivement, Kojima avait déjà laissé entendre quand il est parti du studio qu'il manquait un bon tiers du jeu qui n'était pas fait. Et quand le jeu est sorti, il a été dataminé, forcément, vu qu'il est arrivé sur PC. Comme tous les jeux PC, il a été dataminé. Et les gens ont découvert qu'effectivement, il y a 2 chapitres présents dans le jeu actuellement. Et il y en avait un 3e qui était prévu. Donc, a priori, il manquait effectivement un bon tiers du jeu avant sa sortie.
C'est fou, hein, parce que le jeu, encore une fois, il est énorme. Il y a beaucoup de contenu.
Ah, il est énormissime. Tu peux passer 100 heures dessus à faire l'émission et pas voir 2 fois les mêmes trucs.
Ouais. En plus, cette nouvelle formule qui oscille entre le monde ouvert classique et le découpage en missions d'avant, elle fonctionne bien parce qu'on peut appeler des alliés pour nos missions, des alliés iconiques. Bon, on a le plus connu qui est en Quiet, qui est une femme qui ne peut pas parler et qui est à moitié nue, tout simplement. Alors, soi-disant, c'est pour pallier à son système de respiration.
Ouais.
Là, je pense... Bon, Kojima, il a avoué qu'il avait fait ce design pour influencer et attirer les cosplayers, avant tout.
Oui, c'est ça. Il a dit qu'il voulait faire le design parce qu'il voulait voir les cosplays et parce qu'il pensait que ça allait vendre des figurines. Bon, les deux ont été vrais, mais quand même, c'est pas une excuse, ouais, Kojima. Tu déconnes.
Ça suffit. Il y a un autre allié qui est un chien qui devient notre meilleur ami, comme le chien de Fable 2 ou de Fallout 4, qui est un allié extraordinaire. Enfin, il y a plein d'alliés. Le système de Mother Base, il est repris aussi. On peut reconstruire, parce que forcément, elle a été détruite. On peut reconstruire notre Mother Base en recrutant des gens. Enfin, voilà, il y a des heures et des heures et des heures de gameplay en perspective. Visuellement, le jeu, il tabasse. Hein. Ça prouve que le Fox Engine... C'est un bon moteur. Et le principe des épisodes de série pour chaque mission, il est repris. Alors cette fois, il y a carrément un générique de début, un générique de fin pour chaque mission, d'ailleurs. Et Monsieur Kojima, il s'inspire régulièrement de films pour créer ses jeux. C'est plus un mystère, mais cette fois, c'est un livre qui l'a inspiré. Donc, comme on a dit, le livre Moby Dick et le script, il fait référence constamment à Moby Dick et à son thème de la vengeance. Enfin, surtout dans le chapitre 1. Après, l'histoire, elle part dans quelque chose d'un peu différent.
Ouais.
Kojima, il a d'ailleurs découvert également les lens flares, malheureusement, pour Metal Gear Solid 5. Donc, on a des lens flares partout. Oh là là, c'est insupportable. Ah,
je pense qu'il a dîné un soir avec J.J. Abrams et ils se sont filé des idées et il est rentré au Japon avec ça, quoi.
Carrément, parce que même quand quelqu'un ramasse un stylo, il y a un petit lens flare sur le stylo pour nous dire que le stylo est important. Ah là là, c'était dur pour moi. Et je pense qu'il a mangé aussi avec... comment il s'appelle, le réalisateur de 300. C'est toujours pareil, je connais tous les noms et au moment où on fait le podcast, mon cerveau se met sur off et dit non, tu te débrouilles. Donc, mais en tout cas, il a dîné avec ce gars-là pour découvrir les ralentis aussi. Et dans MGS5, on a beaucoup de ralentis pendant les scènes cinématiques.
Ah, Zack Snyder, j'ai googlé. Hein.
Le voilà, oh, bah, ouais. Zack Snyder, voilà, personne que je n'aime pas beaucoup. À cela s'ajoute son amour pour les séries télé, en fait, et 24 heures chrono, notamment, qui avait cartonné, et ça le pousse à embaucher l'acteur Kiefer Sutherland pour être le doubleur de Snake, mettant fin à la collaboration avec David Hayter, malheureusement, qui avait été la voix de Snake jusqu'à présent. Bon, quelques références par-ci par-là, on peut citer également que la voix du droïde de Snake, c'est une référence au film Dark Star de John Carpenter, un film de 1979, dans lequel un ordinateur a une voix de femme et communique avec les personnages. Et le chronomètre qui s'affiche quand on fait passer le temps dans le jeu, il y a un chronomètre qui s'affiche. Et ben ce chronomètre, en fait, c'est le même design que la montre de James Bond dans le film Contre Octopus. Voilà,
maintenant,
vous le savez.
D'accord.
Donc, forcément, il a un plus gros budget. Donc là, Kojima, il se paye le luxe d'avoir une chanson de David Bowie dans le jeu. Bah, tant qu'à se faire plaisir. Hein. Et quant à la chanson habituelle qui clôture le générique de fin, là, bah, il revient à une chanson composée en interne. Il ne prend pas un morceau sous licence. C'est Ludwig Forssell qui s'en occupe. Ludwig Forssell, d'ailleurs, qui écrit la chanson et qui écrit les paroles. Également, il chante pas, mais c'est lui qui écrit les paroles. Et il décide d'écrire une chanson un peu en phase avec son temps, parce qu'à l'époque où MGS5 est sorti, c'était la nouvelle vague qu'on appelle Synthwave. Ça avait explosé, ce style de musique qui se veut un hommage au synthé des années 80. Donc il décide d'écrire un morceau en référence à ça. Et le morceau s'appelle tout simplement The Phantom Pain, ou A Phantom Pain plutôt. Et je te propose qu'on se l'écoute, ce sera le dernier morceau de l'émission. Donc,
Allez, allons-y.
Alors voilà, encore une fois, un morceau que je trouve très cool. C'est un petit plaisir coupable. J'aime beaucoup ce morceau, personnellement.
Non, non, mais il colle assez bien. En plus, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est pour une fois, entre guillemets, pas un morceau à distance qui clôture le jeu. Mais cela étant, des morceaux à distance, on en retrouve plein dans le jeu, mm-hmm. parce que justement, tu peux ramasser des cassettes quand tu te balades dans l'open world. Et ce sont que des cassettes de morceaux pop des années 80. Et il y a des morceaux très connus comme moins connus, mais il y a plein de musiques intéressantes à écouter dans
ouais,
le jeu, mine de
rien. Ouais, ouais. Non, carrément. Et ce morceau, donc, qui conclut MGS5 qui se conclut par un twist scénaristique plutôt bien, enfin, un petit appareil à cheveux, mais bien. Moi, je trouvais vraiment cool, j'étais vraiment surpris.
Ouais, moi, je l'aime bien, ouais.
Ouais, ouais, c'est plutôt bien, mais ça marque, malheureusement, la fin de la franchise Metal Gear, parce que là, Kojima étant divorcé de Konami, c'est un petit peu fini. Enfin, Konami essaye de capitaliser sur la franchise. Ils ont sorti Metal Gear Survive, qui est... Bon, on va pas trop en parler, c'est pas génial.
Vaut mieux pas, il y a des choses terribles qui vont être dites, sinon.
Et là, ils vont sortir le remake de Snake Eater, qui, bon, ben, il va se vendre, hein, celui-là, forcément, vu que c'est un remake. Mais on verra s'ils nous sortent des nouveaux épisodes ou pas. En tous les cas, pour Kojima, c'est sûr que c'est fini, parce que lui... Il est sur autre chose maintenant, même si il a annoncé récemment qu'il allait sortir un jeu dans des années, dans la veine de Metal Gear, donc un jeu d'action-infiltration, sans en dire plus, mais c'est prévu, il a un projet. Il a un projet. Bon, alors, on arrive à la fin de ce podcast, mais non, parce qu'on a le mot de la fin, et le mot de la fin, je te le laisse, Nico, parce que c'est ça, c'est un gros mot. Enfin, c'est pas un gros mot, mais c'est un mot conséquent.
C'est conséquent, je voulais te raconter une histoire. Je savais pas où la mettre dans le conducteur. Je me suis dit, à la fin, c'est pas plus mal. Je trouve que ça conclura pas mal, justement, toute la philosophie autour des Metal Gear. Il faut que je te raconte une histoire par rapport à Metal Gear Solid 5 qui, un jour, a rétabli la paix dans le monde, mais seulement pendant quelques mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as forcément remarqué que la saga des Metal Gear, globalement, porte un message assez opposé aux armes nucléaires. Il y a la guerre de manière générale. C'est un sujet qui est plus ou moins central, quoi, dans les jeux de la série. Évidemment, ça revient dans Metal Gear Solid 5. Sauf que le jeu sort à l'époque d'Internet, où on est tous connectés, on peut jouer avec des gens du monde entier. Donc forcément, MGS5 a une fonction online. J'ai pas trop m'attardé sur le mode multijoueur lui-même, parce qu'il était plutôt cool, mais personne n'y a vraiment joué. Par contre, le jeu a une fonction particulière online qui a causé un énorme tollé sur Internet, puisque dans MGS5, donc, tu peux créer et développer ta base, hein, comme la Mother Base, il faut que tu la reconstruises puisqu'elle a été détruite au début du jeu. Et donc, si tu développes suffisamment ta base et que tu développes suffisamment de nouvelles technologies, au bout d'un moment, tu peux créer une arme nucléaire carrément, et la stocker sur ta base. Alors, tu peux pas utiliser cette bombe atomique en mission ou en mode multijoueur. En réalité, elle est juste là pour faire augmenter le rang de ta base et servir de récompense aux joueurs qui pourront essayer de te la piquer. Parce que dans ce mode de jeu, en fait, tu peux envahir les bases des autres joueurs et leur piquer du matériel, des ressources, des soldats ou leur bombe nucléaire. Une fois que tu as leur bombe nucléaire, tu peux soit la garder pour toi, soit la désarmer. Et ça va jouer un rôle important. Konami a mis cette fonction au cœur du mode en ligne de MGS5, puisque les serveurs du jeu tiennent un compte en temps réel du nombre total de bombes nucléaires possédées par les joueurs sur les serveurs. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que Konami a annoncé qu'un secret serait débloqué dans le jeu si les joueurs arrivent à se coordonner pour atteindre le nombre de 0 bombes nucléaires. En gros, s'ils se dénucléarisent complètement, les joueurs, ça débloque un secret dans le jeu. Alors au début, ils ont pas vraiment voulu dire quoi. Mais voilà, en gros, on a découvert assez vite que quand ça arrive, il y a une cinématique spéciale qui se lance, parce qu'encore une fois, le data mining a permis de trouver la cinématique en question et de voir que oui, mais si ça arrive, il y a une cinématique spéciale qui se déclenche dans le jeu pour féliciter les gens d'avoir s'être dénucléarisé, quoi, d'avoir atteint la paix, en gros, et pas la paix par les armes, mais vraiment la paix en disant ok, on arrête de faire des bombes et on se tire plus dessus. Et il était promis que tous les joueurs devaient recevoir une récompense. Le problème, c'est que 9 ans après la sortie du jeu, c'est jamais arrivé. Il y a bien des gens hein, qui ont essayé à plusieurs reprises d'éliminer toutes les bombes atomiques sur les serveurs, mais ils n'ont jamais réussi. À un moment donné, il y a même eu un subreddit qui s'appelait Metal Gear Philanthropy qui cherchait à convaincre les gens de désarmer leurs ogives nucléaires, de, voilà, de les, soit les arrêter, soit envahir d'autres joueurs pour désarmer leurs propres leurs ogives à eux. Mais voilà, l'initiative a été contrée par un autre subreddit qui s'appelait Metal Gear Patriots qui prenait exactement l'inverse, qui disait « Non, il faut des bombes atomiques, faites des bombes nucléaires, c'est important !» Donc, il y avait vraiment deux communautés qui s'opposaient par rapport à ça. Mais ça a commencé à devenir en fait vraiment le bordel. Jusque-là, c'était bon enfant. Ça a commencé à devenir le bordel quand Konami a commencé à teaser le contenu potentiel qu'on pouvait débloquer comme ça. Parce que les gens ont posé la question à Konami de savoir, est-ce que si on démilitarise complètement les bases du jeu, est-ce qu'on peut débloquer l'acte 3, par exemple ? Parce qu'on savait déjà qu'il y avait un acte 3 prévu dans le jeu. Il y avait déjà des extraits de cinématiques dans le code du jeu. Il y avait déjà le carton acte 3, enfin chapitre 3 qui s'appelait Peace dans le jeu. Donc les gens ont commencé à demander est-ce que ça a un rapport avec ça. Il y avait des contenus vidéo diffusés sur le site de Konami régulièrement qui se débloquaient au fur et à mesure qui étaient liés au jeu. Il y en avait 35 vidéos qui étaient disponibles et une 36e avec marqué Classified. On pensait qu'elle allait se débloquer au moment où tout le monde s'est débarrassé de ses bombes nucléaires. Il y a plein de petits indices comme ça qui laissaient penser que la cinématique incluse dans le disque du jeu, c'était pas la seule récompense. Le truc, c'est que Konami a commencé à teaser là-dessus en disant « Ah, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont se débloquer, mais pour le savoir, faut vous débarrasser de vos bombes nucléaires. » Ils avaient un compte Twitter qui tenait un compte, lui aussi, qui publiait le nombre de bombes nucléaires par plateforme pour savoir combien il en restait, pour inciter les gens à se débarrasser de leurs bombes ou à en créer plus, ça dépend de ce que tu voulais faire. Et voilà. Mais ils ont commencé à teaser et ils ont pas démenti les questions ou les rumeurs comme quoi si tu démilitarisais tout le monde, tu débloquais le chapitre 3, parce que la rumeur, c'est devenu ça. Ils l'ont pas démenti et à partir de là, c'est vraiment parti en couille. Parce que en 2020, pendant le confinement, il y a un Américain qui va essayer de convaincre une communauté de désarmer toutes les bombes sur un réseau. Il choisit le réseau PS3 parce que statistiquement, c'est le plus petit, entre guillemets, c'est là où il y a le moins de joueurs et donc c'est là où il y a le moins de bombes. Quand il commence, il y a environ 850 bombes sur le serveur. Donc, il réunit une petite communauté d'un peu moins d'une centaine de personnes qui va légèrement grossir au fur et à mesure. Et en quelques semaines, ils arrivent à éliminer toutes les bombes du serveur. Le 28 juillet 2020, ils arrivent à faire tomber le nombre de bombes à zéro sur les serveurs PS3 et ils débloquent la fameuse cinématique. À ce moment-là, Konami, il lance une enquête, comme ils le font toujours, en fait. C'est pas, il faut préciser que c'est pas la première fois que ça arrive, en réalité, le nombre de zéro bombes, mais, ça a déjà été atteint quelques fois par le passé, mais à chaque fois, Konami a lancé une enquête, et ils ont dit que c'était pas legit. Soit les gens avaient triché, soit c'était un bug, c'est arrivé une fois sur PC, alors qu'il restait encore des bombes actives, la cinématique s'est activée, mais ils ont dit non, c'est un bug, vous inquiétez pas, c'est pas fausse alerte. Mais voilà. Les précédentes fois où on a atteint le nombre de zéro bombes, c'était pas legit, quelqu'un avait triché, ou il s'était passé quelque chose de pas normal. Cette fois-ci, a priori, l'initiative était legit. Les gens se sont réunis sur le réseau PS3 qui était a priori le plus facile à atteindre, entre guillemets, et ils ont atteint le nombre de zéro bombes. Sauf que Konami, il lance une enquête à nouveau, et là, au lieu de répondre en 2-3 jours comme ils le font d'habitude, ils donnent pas de nouvelles pendant 3 mois. Mm-hmm. Pendant 3 mois, l'enquête continue, tout le monde est un peu dans l'attente quoi, de savoir s'ils ont débloqué le chapitre 3, s'il va y avoir du nouveau contenu, pourquoi ça prend aussi longtemps. Plus ça prend de temps, plus les rumeurs deviennent folles. Et 3 mois plus tard, ils reviennent sur Twitter pour expliquer que, alors, la tentative qui a eu lieu en juillet dernier, elle est pas legit. Il y a quelqu'un qui a triché. Et d'ailleurs, au passage, on a banni un de vos potes pour avoir triché pendant la tentative. Ah, c'est la stupéfaction dans la communauté. Personne ne comprend. Tout le monde pense que c'est legit, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'initiative de 2020, elle était bien legit au départ, à un détail près. Quand ils se sont attaqués aux 850 et quelques bombes sur serveur PSN, après une semaine, ils se sont rendus compte que ça prendrait beaucoup trop de temps de se débarrasser toutes les bombes. En un peu moins de 2 semaines, ils ont réussi à se débarrasser de 50 bombes sur les 800 et quelques en se disant à ce rythme-là, il va nous falloir plus d'un an pour vider le serveur parce qu'il y en a d'autres qui en créaient au fur et à mesure que eux les désarmaient. Donc ils se disaient on va pas y arriver. C'est à ce moment-là qu'est arrivé un utilisateur du nom de Steferp. Ce gars-là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un script que tu lances depuis un PC qui va scanner les serveurs de Konami et qui va te donner toutes les infos sur les bombes disponibles pour savoir où les trouver. Parce qu'en fait, il y a un service hein, dans le jeu qui te permet de scanner les serveurs pour savoir où sont les bombes, dans quelle base elles se trouvent, pour les envahir et les désarmer. Mais ce truc, il est buggé, il est super lent, parfois il ne donne pas de liste et il a un défaut qui est que si un joueur a une bombe nucléaire sur sa base mais qu'il n'a pas joué depuis un certain temps, il n'apparaîtra pas dans le système de recherche. Donc, tu ne pourras pas savoir où il est. Donc, le petit outil que Steferp a créé permet de contourner ce défaut du jeu et de trouver quand même les bombes et de gagner énormément de temps. C'est comme ça qu'ils arrivent en quelques semaines seulement à faire tomber le nombre à zéro. Mais en réalité, pas tout à fait à zéro, parce que après avoir éliminé toutes les bombes trouvées par le programme, ils se rendent compte qu'il en reste 40. Le jeu dit toujours qu'il reste 40 bombes qui sont introuvables. Elles sont pas sur les serveurs du jeu. L'outil de Steferp n'arrive pas à les trouver et ils comprennent pas. Et en cherchant un peu, ils comprennent un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que si un joueur a créé une base, qu'il l'a développée, qu'il a créé une bombe nucléaire dessus, puis qu'il s'est fait bannir du serveur ou bannir du PSN, eh ben, sa base disparaît, mais pas la bombe nucléaire qui était dessus. Elle est toujours comptée sur le serveur. Et le problème, c'est que vu que sa base a disparu, tu peux pas envahir la base et tu peux pas désarmer la bombe. Et donc, il restait une quarantaine de bombes comme ça, que la communauté appelait des bombes fantômes, qui existaient sur le serveur, mais qui ne pouvaient pas être désarmées. Alors, ils ont contacté Konami pour leur dire que, voilà, nous, on aimerait bien faire tomber le compteur à zéro, mais on peut pas. On a désarmé toutes les bombes qu'on pouvait trouver dans le jeu. Il en reste 40. On n'y a pas accès. Si vous les retirez pas vous-même, on pourra jamais atteindre le nombre de zéro, mais Konami leur a jamais répondu. C'est là que le fameux Steferp, il va tricher un petit peu. En fait, son outil de recherche de bombes, il sert pas qu'à ça. En fait, le Steferp en question, c'est un hacker qui était surtout là pour démontrer un peu de quoi il était capable. Et en fait, il a trouvé un moyen de s'introduire sur les serveurs de Konami pour modifier les données comme il le voulait, sans trop laisser de traces. Et ce qu'il a fait, quand il a vu qu'il restait que 40 bombes impossibles à supprimer, c'est qu'il s'est introduit sur le serveur de Konami, il a supprimé les 40 bombes, et c'est comme ça que le nombre est tombé à zéro bombe. Et c'est ce que Konami a découvert dans son enquête, mais c'est aussi pour ça que ça a pris 3 mois à arriver à la conclusion, parce que tout laissait penser que l'initiative était legit, que tout le monde avait fait les choses correctement, mais il restait ces 40 bombes qui sont restées là pendant 2 semaines, et puis du jour au lendemain, c'est passé de 40 à 0 et ils savaient pas pourquoi. Et en fouillant, ils se sont rendu compte que quelqu'un a hacké le serveur et a effacé ces 40 dernières bombes. Le problème, c'est que la réaction de Konami, ça a pas été de dire « Ok, bon, on a merdé, il y a ce bug-là, on aurait dû le corriger, on va quand même vous donner la récompense. » Non, ça a été de dire « Vous avez triché, on va vous bannir. » Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le jeu pour que la cinématique s'active plus si vous atteignez le nombre de zéro bombes. Pas que sur PS3, mais sur toutes les plateformes.
Super.
Voilà. Donc du coup, ils ont désactivé le fait de pouvoir recevoir la récompense quand tu atteins zéro bombe nucléaire sur le serveur, histoire qu'on leur foute la paix avec cette histoire, parce que Kojima est plus là. Eux, ils ont peut-être...
Attends, c'est eux qui ont créé leur histoire.
Mais exactement, c'est eux qui ont créé le truc et maintenant, ils veulent plus en entendre parler. Donc les gens, forcément, ont été un peu scandalisés. Ils ont même contacté Kojima qui bossait plus chez Konami depuis des années à ce moment-là pour lui dire est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que c'est que la récompense, est-ce qu'on rate vraiment quelque chose ou est-ce que de toute façon c'est pas grave si Konami veut rien faire parce que il y avait rien d'autre à trouver. Et en fait Kojima il a expliqué que toute cette histoire, il a fait un tweet pour expliquer que toute cette histoire de bombes nucléaires, de récompenses si tu arrives à zéro, de démilitariser machin, c'était une expérience sociale.
Ah, voilà.
Et qu'en gros l'idée c'était de montrer que même si dans le monde réel tout le monde aurait intérêt à se débarrasser des bombes nucléaires parce que c'est la meilleure manière de s'assurer que personne ne meurt sous une bombe nucléaire, c'est de pas en avoir. Et les pays continuent quand même de faire des bombes nucléaires parce que c'est aussi d'une certaine manière dans leur intérêt d'en avoir et que ils voulaient montrer que ça se passe aussi comme ça dans le jeu, en montrant dans le jeu qu'il est impossible de réellement complètement démilitariser même si tout le monde a la volonté de le faire. Ça fait le parallèle avec le monde réel où logiquement tout le monde voudrait ne pas avoir de bombe nucléaire et que les voisins n'en ont pas, mais tant que le voisin en a une, il vaut mieux en avoir une soi-même, quoi.
Ouais, et effectivement, et toutefois avec ce groupe dont tu parlais, le subreddit des philanthropes, le subreddit des patriotes, ça montre bien aussi que c'est impossible de faire en sorte que tout le monde s'entende de toute façon.
C'est ça, exactement.
Exactement. assez terrible pour tous ces gens qui ont perdu un temps extraordinaire à faire ça pour rien.
Ouais.
Au moins, l'expérience sociale est un succès.
Voilà, exactement. Il a prouvé ce qu'il voulait prouver que j'aime. Même quand il est plus là, il arrive encore à laisser son aura dans le jeu. Il est incroyable. Il est incroyable. Disons-le.
Il est incroyable. Le mec le plus méta du jeu vidéo.
Mais oui.
Donc voilà, écoute, c'est ce qu'on pouvait dire sur Metal Gear Solid. Évidemment que c'est une série qui est tellement riche, tellement dense, qu'on ne pouvait pas parler de tout. Nous, on se concentre sur les anecdotes et la musique. Vous pouvez vous renseigner sur d'autres choses. Vous pouvez faire les jeux, tout simplement, pour découvrir cette série qui est assez extraordinaire.
Oh ouais, faites-les. Ça mérite. En plus, c'est la compile qui est sortie, là.
Non, mais oui, avec la compile, c'est vraiment... Moi, en l'ayant racheté, là, je trouve que c'est vraiment la bonne manière de le faire, très honnêtement, parce que c'est vraiment agréable. Vous avez tous les jeux sous la main et autant y aller, quoi. C'est plutôt cool. Mmh. Même si je conseille de l'avoir sur PC, parce que vous avez un launcher avec tous les jeux directement, alors que si vous l'achetez sur PlayStation, vous devez installer chaque jeu séparément. Je trouve ça un peu moins pratique. C'est un peu moins
pénible. Ouais, c'est assez pénible. Pareil, je sais pas si ça a été corrigé depuis, mais il paraît que les versions consoles avaient aussi quelques problèmes de performance ou de trucs ça.
Ouais.
Mais ça a probablement été patché depuis, mais c'est ce que j'avais lu au lancement.
Donc voilà, donc MGS5, jouez-y, regardez les easter eggs, il y a des easter eggs extraordinaires. Depuis MGS1, il y a des millions de easter eggs à découvrir à droite, à gauche,
ouais,
c'est fantastique. Regardez Meryl en vue première personne pendant 10 minutes, elle va devenir toute rouge et vous taper. Enfin, c'est génial ces jeux-là. Donc écoute... Je suis content, on a réussi. C'était gros, hein. Il me faisait peur cet épisode, mais je suis content.
Ouais.
On l'a fait, on est allé au bout.
On y est, ouais, c'est voilà. Fait.
Et puis, on va finir sur la phrase habituelle, mais qui est importante. Partagez cet épisode. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Ça nous maintient en vie. Mmh. C'est très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de ce podcast. Ça sera grandement apprécié. De mon côté, Nico, je te dis un gros merci parce que c'était beaucoup de boulot.
Mais merci à toi.
Et à la prochaine pour un nouvel épisode extraordinaire.
Mais oui, à bientôt.